Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
C'est un homme engagé que nous recevons aujourd'hui, marié, père et grand-père, consultant en communication, cofondateur du Congrès Mission, responsable France des Chevaliers de Colomb, un homme qui vient parler aux hommes, mais pas que. Bonjour Arnaud Boutéon.
Bonjour Isabelle.
Merci de faire ce détour par les studios de Radio Présence avant de donner une conférence aux jeunes de la paroisse étudiante. J'ai pas précisé que vous étiez un grand fan de sport.
Et oui. Et puis en plus, j'aime l'Ovalie.
Alors, bienvenue en terre d'Ovalie. Vous avez notamment cofondé Holy Games, d'abord pour apporter une présence chrétienne pendant les Jeux Olympiques, et puis ensuite pour lancer un appel à la sainteté par le sport. Vous êtes l'auteur de « Comme un athlète de Dieu », manifeste sportif et chrétien chez Salvator, et « Une jeunesse catholique de France entre audace et espérance » chez Artege. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses chez vous, beaucoup d'engagement, beaucoup d'activités. Qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça ?
Je pense que le lien, c'est une forme de joie personnelle. Une joie personnelle, parce que tous ces secteurs d'activité sont des secteurs d'activité qui rebondissent sur les joies de l'enfance. Les joies quand j'étais scout, quand je pratiquais le sport, quand je regardais du sport, et puis quand je servais la messe. Donc j'ai eu cette opportunité un peu d'aligner des aspirations profondes qui remplissaient mon cœur de joie. Et à un moment donné, il y a un peu plus de 10 ans, après différents engagements associatifs, j'ai, en discernement avec mon épouse, poussé le curseur un peu plus loin en m'engageant à travers l'engagement des Chevaliers de Colomb au service de la mission, mais pas que les Chevaliers de Colomb. Dans les Chevaliers de Colomb, j'ai pu aussi servir le Congrès Mission, avoir cette intuition d'Holy Games. Je crois beaucoup aux grandes amitiés. L'importance des grandes amitiés, à une forme de magnanimité qui est une grande vertu dont on parle peu, c'est de voir les choses en grand, de façon profonde, à avoir la vision du temps long. Et puis, il faut du sérieux, de l'audace. Et seul, on peut pas faire grand-chose. Donc, avoir la capacité aussi d'exprimer des besoins, d'écouter les besoins. Et je crois beaucoup à l'équation 1 plus 1 égale 3.
Tout simplement. Vous faites partie donc des Chevaliers de Colomb, une fraternité masculine qui a été fondée par le prêtre américain Michael McGivney en 1882. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'intuition de départ de ce prêtre et en quoi cette intuition est encore actuelle aujourd'hui ?
Oui. Alors, le père McGivney était un prêtre d'origine irlandaise qui arrivait en Amérique. Et les familles irlandaises, il faut imaginer les films de Scorsese, vous voyez, les hommes étaient alcooliques, bagarreurs, très prolétarisés. Ils avaient des familles nombreuses et souvent les hommes mouraient à l'âge de 40-45 ans. Ceux qui réussissaient rentraient dans des sociétés secrètes protestantes dans lesquelles on se disait, bah, tiens, on va attirer une forme d'élite. Et puis ils oubliaient la foi catholique. Ça, c'était les survivants. Et ceux qui mouraient laissaient des veuves avec 5-6 enfants. Et ces enfants étaient confiés à une forme d'assistance publique et ils étaient dispatchés dans des familles. Et donc, voyant ce drame humain, alors que, vous savez, il y a eu près de 40 millions d'Irlandais en 30 ans qui sont partis aux États-Unis, ce jeune prêtre de paroisse, issu d'une famille aussi nombreuse irlandaise, a vu la détresse des épouses. Donc ne jamais oublier que la finalité de l'engagement chevaleresque, on pourra dire c'est du masculinisme, c'est
de l'entre-soi peut-être.
C'est de l'entre-soi. La première finalité, c'est l'amour courtois qu'on trouvait dans la chevalerie, c'est protéger et défendre la femme. Donc c'était prendre la défense de ses veuves. Ensuite, de façon très concrète, très matérielle, il a dit... Eh bien, on va créer une mutuelle. Vous savez que les premières mutuelles ont été créées au milieu du 19e siècle dans l'Est de la France. Donc, il s'est inspiré de quelque chose qui existait déjà en France. C'était aussi un prêtre pétri de spiritualité française, élevé chez les jésuites, très influencé par Saint Vincent de Paul, le culte du Sacré-Cœur. On pourra en reparler. Et donc, il a créé une mutuelle, une société de secours mutuel, ce qui fait que tous les hommes qui rentraient dans cette confrérie, donc il a vu aussi le besoin pour les hommes de ne pas être seuls et de servir ensemble. Donc le besoin de former une équipe, non pas pour nous regarder le nombril, mais pour servir, pour soutenir le prêtre. Donc le premier besoin, c'était défendre les épouses, créer une société de secours mutuel, créer des confréries, soutenir l'Église tout en étant à côté de l'Église. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme d'autonomie. Et là, récemment, il y a un chevet de colon en France qui a fait un mémoire en droit canon. Et les chevets de colon, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'hommes. Mais il y a une autonomie. C'est-à-dire que toutes nos ressources...
Ça ne dépend pas d'une paroisse, en fait. Ça,
alors, on se met au service de la paroisse, mais dans les laïcs, et ça, c'était bien avant Vatican II, c'est une association avec des laïcs. Les prêtres, on les soutient, mais il y a une autonomie, j'allais dire, du laïcat, sachant que toute notre énergie, toutes nos forces se placent au service de l'Église. Mais nos responsables ne seront pas nommés par des prélats romains, par des cardinaux, par des évêques. Donc, j'allais dire, on est à côté de l'Église, mais toutes nos forces se placent au service de l'Église.
Ouais.
Et tous les prêtres sont invités à être membres d'honneur des chevets de colon. Aujourd'hui, la plupart des évêques américains sont chevets de colon. Au Canada aussi. Enfin, donc, il y a un enracinement, j'allais dire, spirituel, ecclésial très fort. En 1920, le Vatican a demandé aux chevets de colon d'investir à Rome en créant des centres pour les jeunes. Aujourd'hui, on a, parce qu'il y avait une menace fasciste aussi, pour capter des terrains. Donc, il y a beaucoup de terrains de sport. Il y en a 4 grands terrains de sport qui sont autour du Vatican. Et donc, il y a toujours, depuis plus de 100 ans, une vraie proximité avec le Saint-Siège. Pour soutenir l'Église, voilà, au soutien des prêtres, au soutien du pape. Et puis, ce n'est pas un mouvement de spiritualité, c'est un mouvement d'entraide et de service. Donc, j'en discutais à midi avec un jeune Toulousain. S'il y avait une spiritualité chez les chevets de colon, ça serait celle, vous savez, du songe de Don Bosco. C'est la fidélité avec le Saint-Siège et avec le Saint-Père. C'est l'Eucharistie et c'est la Vierge Marie.
Les trois blancheurs, non ?
C'est les trois blancheurs,
ça,
voilà, oui. Vous le savez.
Oui. Vous dites que c'est important de servir ensemble. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de contrer ou de répondre à l'individualisme qui fait que le cœur de l'homme est éclaté ?
Si, absolument. On réalise aujourd'hui qu'il y a une épidémie de solitude et en même temps, c'est très égotique. Et je pense que dans le cœur de l'homme, alors vous avez évoqué le sport, moi je crois beaucoup à ce qui se passe dans les vestiaires sportifs, ce qui se passe dans les combats sportifs, cette capacité à assumer ensemble la défaite et à se remettre debout ensemble. Le rôle de l'entraîneur, quand une équipe gagne, c'est toujours grâce aux joueurs. Quand une équipe perd, il est prêt à accepter et à mettre sur son dos la défaite.
La responsabilité.
C'est quelqu'un qui discerne les talents de chacun, qui les place au bon endroit, au bon moment. Donc on a besoin aujourd'hui d'entraîneurs. Le cardinal Gantin, dans les années 80, disait « On parle beaucoup des éducateurs dans l'Église, retrouvons la fonction de l'entraîneur. Mmh. » C'est celui qui donne confiance et celui qui donne du temps de jeu, quelque part. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, à travers le besoin qui est inscrit dans le cœur de l'homme, je crois, de rite et de rythme, dans des engagements précis, une organisation, une méthodologie précise, je pense que, et une incarnation. Parfois en France, on a été un peu désincarné, on aime beaucoup parler, c'est ce que je fais. on discute, on donne des leçons de morale, mais ce que j'ai appris en tout cas dans cette grande confrérie des chevets de colon, ils le disent souvent, c'est pas yes we can, c'est yes we do. C'est-à-dire qu'on le fait et c'est la foi en acte. C'est la foi en acte et ce qu'on voit aujourd'hui même dans la question de la transmission de la foi dans les familles, on se souvient, c'est une question de patrimoine. On se souvient de ce que nos parents ont fait. C'est pas du tout... On ne transmet pas la foi comme on transmet de l'argenterie de famille avec des leçons de morale. Jean-Paul II disait « J'ai commencé mon séminaire en voyant mon père à genoux en prière. » Et ça, on veut vraiment être conscient de ça. Et Paul VI évoquait aussi le besoin de ce monde d'avoir non pas des maîtres, mais des disciples. Ou encore, faut-il que les maîtres soient des disciples. Voilà.
Oui.
Le plus important, c'est d'avoir des témoins, des disciples témoins, des témoins et pas des maîtres. Pas des gens qui, de façon, j'allais dire, désincarnée, donnent des leçons de morale.
Oui,
on est
ça.
Là pour servir.
Oui, et pour donner finalement un exemple.
Voilà, mais on ne veut pas se regarder non plus dans l'exemple.
Oui, c'est sûr.
Voilà.
Oui,
on sert, on se donne... à travers les relations humaines qui vont se tisser dans le service, que ce soit aussi auprès de gens qui servent, qui aussi nous enseignent énormément. Quand on se met au service du plus pauvre, là on sort de la journée autour de la pauvreté, on est enseigné par le pauvre. Je me méfie toujours d'une charité un peu descendante. Voilà, on est déstabilisé et puis on crée une aventure commune tout simplement.
Alors, ces chevaliers de colon suivent l'idéal de la chevalerie. Vous avez dit que c'est, c'est le propre de la chevalerie d'avoir cet amour courtois, c'est-à-dire de défendre la femme. En quoi cette pratique de la chevalerie, qui pourrait paraître quand même un peu surannée, répond aux besoins des hommes de notre temps ?
Alors d'abord, je pense que les codes de chevalerie, ils se retrouvent dans le monde du sport. Et le sport aujourd'hui est un média très puissant. Tout le monde parle de sport. Le sport a envahi notre espace médiatique. Et regardez les blasons des clubs, les devises des clubs, les traditions des clubs, les maillots, les tuniques. On se retrouve complètement dans des codes chevaleresques. On va dans les vestiaires sportifs, vous avez des grands mots, vous avez dépassement de soi, oui, humilité, combat, etc. Donc les codes chevaleresques, ils sont là. Seulement, il faut les dépoussiérer. Le monde du sport a su les dépoussiérer. Et moi, c'est en travaillant auprès de sportifs. J'ai travaillé à la chaire européenne de marketing sportif il y a 12 ans. J'ai, un peu comme Charles de Foucault a été évangélisé par les musulmans quand il est arrivé dans le Hogar, moi, j'ai été évangélisé par la rectitude morale et la cohérence de vie de certains sportifs de haut niveau. En particulier des grands champions, je pense à Serge Betsen, par exemple, cette espèce de rectitude, cette exigence du haut niveau, etc. Une sobriété, ne pas comparer, ne pas se victimiser, ne pas critiquer, être uniquement focus sur le bien qu'on va faire. Et donc, l'esprit chevaleresque, je crois qu'il est d'une grande actualité. Principe d'esprit chevaleresque, c'est la défense du plus faible, c'est le fait de donner et de se donner sans se regarder. C'est pour ça que tout ce qui est cap, épée, costume, moi ça ne m'intéresse pas. Chez les chevaliers Coulon, on a besoin un peu de décorum ou de solennité dans les célébrations, mais on n'aura pas de grandes capes et de grands... voilà, on ne va pas parader. Et puis, donc c'est avant tout le service... Ensemble, on a besoin, je l'évoquais, de rites et de rythmes. Et puis, voilà. Et après, la force qui est dans le cœur des hommes, toute la question, c'est est-ce que ça va être une force de prédation ? Et on est dans une société où, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans les relations interpersonnelles, on peut être amené à l'instrumentalisation, la manipulation,
à s'imposer, ouais.
Et même la prédation sur le terrain sexuel. Et on voit les ravages que ça fait. Et nous, l'esprit de chevalerie, c'est que cette force qui est dans le cœur de l'homme, on veut l'orienter vers la coopération et la communion. Et donc, ça suppose de rentrer en communion, en écoutant deux fois plus qu'on ne parle, et puis en écoutant surtout les besoins des autres pour humblement servir, tout simplement, ou mettre en relation, enfin, service en donnant notre temps, notre énergie, notre force, notre argent. Mais on voit que ça nourrit le cœur des hommes, fondamentalement.
Ce qui est étonnant, c'est que vous dites que ce n'est pas un mouvement de prière, ce n'est pas les Chevaliers de Coulon ne sont pas un groupe où vous vous retrouvez pour prier. Cela dit, l'Église dit que toute action est précédée par la prière, par la contemplation, parce que c'est Dieu qui guide.
Exactement.
Finalement.
Alors, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un mouvement de spiritualité.
Oui.
Comme certains mouvements de spiritualité existent dans l'Église. C'est d'abord un mouvement de service. Donc on peut être membre de l'Emmanuel, du Chemin Neuf, du Chemin Neuf Catéchuménal, de l'Opus Dei, et être chevalier de Coulon. Il faut imaginer un peu comme des routiers scouts, sauf que c'est pour les hommes de plus de 18 ans.
Il faut qu'ils soient mariés ou pas ?
Il faut être catholique et être un meilleur catholique. Non, pas du tout.
D'accord.
Donc on a de plus en plus d'étudiants, on a des veufs, on a des divorcés, on a des célibataires, on a tous les états de vie. Donc il y a un vrai mélange d'âge, de génération, il y a une mixité sociale très forte, on a des sensibilités liturgiques aussi en fonction des âges différentes, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble pour servir ? Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ça répond à un besoin, avec un besoin. Moi, je parle souvent de l'esprit missionnaire et populaire, et le besoin aussi de rire. L'humour et l'autodérision sont fondamentales. Il y a beaucoup d'autodérision. Le nom Chevalier de Coulon, d'ailleurs, on s'est beaucoup moqué de nous en France. Beaucoup de gens du marketing dans le monde catho se sont moqués de moi. Et j'ai dit, finalement, c'est très bien, parce que c'est une forme d'écharde un peu dans notre pied. On ne peut pas se prendre au sérieux avec un nom qui, en France, comme ça, est aussi ridicule. Alors, parfois, je dis, on peut nous... Parce qu'on nous dit les chevaliers du côlon. Je dis, pourquoi pas les écuyers de la prostate. Mais avec humilité, on se met au service de ce projet qui a 140 ans. Il y a plusieurs dizaines de millions d'hommes qui ont fait cet engagement de servir l'Église au cœur des chevaliers de Coulon. Donc ça rend humble au-delà des petites modes marketing bien ripollinées et bien lisses que la société aussi peaufine. Et
oui, on a, avec un bon donc, plan de com.
Voilà, donc je vois ça aussi. Moi-même, je suis issu du marketing comme un signe aussi d'humilité de se dire... Parce qu'en France aussi, on aurait pu créer quelque chose, une chevalerie française.
Et là, vous vous êtes inscrit finalement dans une
histoire.
Et
je trouve ça très bien. Ouais. Ça a 140 ans. Les chevaliers de Colomb, il y a 10 ans, se sont tournés vers la France en disant « Vous avez un héritage, partagez-nous cet héritage. Vous avez une créativité missionnaire. Faites en sorte que cette créativité, cette audace missionnaire... » Le pape François l'avait évoqué, hein, ces deux traits français, audace et créativité missionnaire et un héritage. Faites en sorte de vous le réapproprier, non pas pour faire cocorico et avoir la tête qui gonfle, mais pour servir un peu plus davantage l'Église. Et puis à travers ce petit canal des chevaliers de Colomb, des 2 millions de membres aux Philippines, en Pologne, en Ukraine, au Mexique, etc., diffuser un peu le trésor, la singularité de ce qui nourrit l'âme du chrétien en France. Mmh.
Qu'est-ce que c'est, en quoi c'est important de se retrouver entre hommes, spécifiquement ?
Je pense qu'on fait tomber les masques. Un jour, le père Doncœur avait écrit un petit livre, La Vierge Marie dans nos vies d'hommes, et il disait, l'homme a besoin de lieux dans lesquels il tombera les masques, parce que l'homme, dans l'espace social... se cache derrière un masque, se cache derrière une fonction statutaire, se cache derrière des attributs de pouvoir. Et à un moment donné, dans l'espace clos comme dans un vestiaire, on fait tomber les masques, on prie les uns pour les autres, on partage sur nos vulnérabilités, nos difficultés. Dans un groupe de chevaliers de Colomb, il y a toujours un binôme de prière en début d'année. On s'engage à déjeuner 2 fois par an et l'année d'après, on change ce binôme. Donc on partage nos vulnérabilités et puis je pense qu'on ne sait pas souvent, avec nos bonnes conventions un peu bourgeoises catholiques en France, on n'a pas souvent l'humilité d'exprimer des besoins et l'expression, la non-expression d'un besoin stérilise la charité. Et quand on arrive très simplement à exprimer un besoin dans la prière, mais parfois un besoin d'aide concret, on peut trouver, et j'ai plein d'exemples, des personnes qui peuvent nous aider. Et ces personnes-là sont, voilà, on sait qu'on a plus de joie à donner qu'à recevoir, et ces personnes-là sont profondément heureuses d'avoir pu répondre à un besoin qui peut-être tourmentait le cœur d'un homme ou le cœur d'une famille. Mmh. On a eu des frères chevaliers qui étaient plantés professionnellement, eh bien, on a pu les mettre en relation avec des gars qui faisaient des bilans de compétences, on a pu retravailler, et ça se fait pas de façon formelle, mais dans la confiance du service. C'est-à-dire que on n'est pas une agence pour l'emploi, mais quand un frère en confiance exprime un besoin, on essaye d'y répondre avec délicatesse.
Et c'est vrai que le fait d'être entre hommes permet, comme vous le dites Arnaud Boutéon, d'avoir cette simplicité de dire ce dont on a besoin.
Oui.
Et ça demande une certaine humilité aussi. Hein.
Et une certaine confiance.
Et
dans les groupes, parfois les prêtres nous disent en ce moment c'est dur, priez pour moi. Les hommes disent en ce moment professionnellement je suis planté, dans mon couple c'est difficile, et donc avec une certaine délicatesse aussi on peut réussir à consoler le cœur des hommes ou bien à créer l'unité là où il y a de la division, mais tout se fait, moi je crois beaucoup à une virile tendresse, à une tendre virilité, et les hommes il faut les appeler parce qu'on n'est pas dans une culture du volontariat en France. Je pense que les hommes ont besoin d'être appelés par les prêtres. S'il y a des prêtres qui nous écoutent, appelez les hommes. Parce qu'en les appelant, vous les élisez. Vous leur dites que vous avez confiance en eux. Il y a un gisement de générosité en France autour des paroisses qui est colossal. On a des catéchumènes, on a des néophytes. Il faut que ces personnes-là se sentent utiles. Il ne s'agit pas de leur dérouler le tapis rouge pendant les 2 années de formation en catéchuménat. Ensuite, donnons-leur des fonctions. Faites en sorte que les personnes, mais que les hommes aussi qui sont au fond de nos églises, se sentent fondamentalement utiles et à leur place dans la communauté chrétienne. Voilà. Il faut des entraîneurs. L'entraîneur, avec discernement, il met la bonne personne à la bonne place et il donne du temps de jeu. Mmh.
Donc si on vous entend bien, Arnaud Boutéon, on voit bien que dans l'âme masculine, il y a ce besoin de servir.
Exactement. Avec les talents de chacun, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essentialiser. Ouais. Il y a des hommes qui sont heureux autour d'un barbecue, qui sont heureux en projetant des matchs de rugby ou en allant au stade avec les enfants de cœur de la paroisse, on fait ça. Il y a aussi des hommes qui sont beaucoup plus intérieurs, qui sont plus contemplatifs. Eux, ils seront heureux de faire des petits topos de 10 minutes une fois par mois dans le cadre des chevets de colons.
Chacun selon son talent.
Voilà, chacun selon son talent et il faut voir grand et large. Voilà. Donc, je me méfie aussi d'une projection d'une masculinité, vous voyez, un peu bruyante, un peu bourrine. Ce n'est pas du tout le sujet. Je crois beaucoup à cette tendre virilité, à cette virile tendresse. Mmh. Et ça demande du temps et de l'intériorité.
Et ça demande du temps et de l'intériorité. Je vous propose justement de prendre un petit peu de temps, le temps de souffler. Arnaud Boutéon, vous nous direz juste après comment le chrétien peut s'engager sans s'épuiser, parce qu'on voit bien que vous êtes bien engagé, mais vous avez fait un travail aussi pour savoir à quel endroit vous pouviez servir au mieux l'Église et vos frères. Nous écoutons Ressuscito, interprété par Glorious.
La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó. Aleluya. Resucitó.
Église, Isabelle Duché.
Nous sommes avec Arnaud Boutéon de passage à Toulouse pour une conférence à la paroisse étudiante. Vous nous avez parlé du cœur profond de l'homme et de cet appel à servir, notamment dans le cadre des chevaliers de colons. J'aimerais que nous parlions maintenant de la mission propre à chacun. Vous-même, vous êtes généreusement engagé au service de l'Église. Comment êtes-vous parvenu à un équilibre entre votre vie personnelle et familiale et vos engagements?
C'est un vrai débat.
C'est un vrai travail aussi.
Et c'est un vrai travail. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait un burn-out. J'étais directeur marketing et communication d'un grand parc français gaulois. Et j'ai explosé en vol. J'ai explosé en vol. Et j'ai réalisé que je ne me connaissais pas moi-même. Donc, je suis une psychothérapie, très simplement, et puis j'ai fait tout ce travail d'anamnèse dans la prière, dans l'accompagnement psychologique avec des outils aujourd'hui modernes aussi. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, ça me rend humble. Ça laisse une cicatrice, ça veut dire que quand je suis en surchauffe, je vois à travers des trous de mémoire ou un épuisement physique et nerveux qu'il faut que je décélère et que je ralentisse.
Et ça, même si votre épouse vous le dit,
c'est là, je suis dans une période de surchauffe, donc il y a un débat intense. Mais non, c'est très important. C'est très, très important de pouvoir décélérer, d'avoir un rythme de prière. Je pense que c'est important aussi. Et même pour les responsables de l'Église, d'avoir un perspi, parce que les grands champions ont des coachs, et il ne s'agit pas d'être champion, il s'agit d'être serviteur engagé en première ligne. Et la vie de prière, parce que les tentations sont là. Et je pense à la confession. On a un état de grâce et une protection aussi face aux tentations. La messe aussi en semaine, c'est toujours un combat, mais il faut le sanctuariser comme on sanctuarise un rendez-vous avec un gros client. Voilà, donc c'est des petites habitudes de vie. Parfois on tombe, il faut se relever.
Mais c'est ça la sainteté.
C'est la sainteté, c'est de se relever plus vite. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, l'homme dans sa vie spirituelle ne peut pas être seul. Le père spirituel de mon épouse, qui est orthodoxe, lui disait, on l'interrogeait sur la transmission de la foi, et il disait, la transmission de la foi, il faut prier en couple, devant ses enfants, avec ses enfants, pour ses enfants. Et ça nous a profondément libérés. Voilà, donc c'est avoir la vie de prière, savoir dire non, même dans des grands engagements de piété, etc., où on veut tout embrasser, donc il peut y avoir pour tout le monde une forme d'hubris et de démesure.
Et même aussi, et quand on voit qu'il y a des besoins qui sont tellement immenses qu'on a envie d'y répondre, on se dit, si j'y vais pas, qui le fera ?
Exactement, d'où l'importance de l'expression de besoin. Et puis aussi un principe dans la doctrine sociale de l'Église, qui est le principe de subsidiarité. Donc il y a peut-être des personnes aussi qui sont mieux qualifiées que vous, donc humilité, pour exercer cette mission. Mais c'est un combat, et je me sens un peu au cœur de ça, parce que j'ai tendance à... Je sais que j'ai tendance à vouloir être un peu sur tous les fronts. Et donc, là, je suis dans une période de décélération parce qu'il y a plein de choses à faire.
La mission n'attend pas. On confond souvent justement la mission avec la vocation. Comment vous distinguez les deux, Arnaud?
Alors, je pense que la vocation est l'appel du Seigneur dans nos vies. Sur un terrain plus spirituel et peut-être sacramentel. Par rapport à un appel personnel du Seigneur dans nos vies. Donc, ça va être le mariage, ça va être, ça va être la vie religieuse ou la vie sacerdotale. Et en revanche, la mission, c'est comment est-ce que je peux servir le Seigneur et la société avec mon histoire sainte, avec mes talents, avec ma formation, avec la joie qui va monter dans mon cœur quand je sens que je suis aligné. Voilà, et donc c'est quelle est ma place dans ce monde en tant que saint. Et en tant que saint, c'est en tant que baptisé et qui tend vers la sainteté. Et je pense qu'il est urgent de nous connaître, de connaître nos tempéraments, de travailler nos caractères. C'est pour ça qu'avoir un père spirituel, avoir des amis, de se former en permanence, de lire et passer moins de temps sur les smartphones, de lire et de... j'allais dire, et d'étudier même au crayon des livres. Et il y a en permanence quand même un enseignement chrétien d'une grande richesse. Donc de passer du temps pour lire des romans aussi, même des romans contemporains. Moi, je réalise que quand je lis des romans, ça me nourrit humainement, dans la patte humaine.
Et puis ça développe l'imaginaire aussi.
Exactement. Mmh. Et le pape François a écrit un petit texte sur la littérature qui, je crois, est révolutionnaire. Donc c'est aussi au-delà des grands élans spirituels de service de l'Église, etc., revenir aussi à des fondamentaux sur notre patte humaine. Et si je me suis intéressé au sport aussi, c'est que je pense que le sport malaxe la patte humaine dans tous ses excès, et dans toute sa grandeur, donc dans tous les vices qui vont être de la démesure, de l'orgueil, de l'obsession, de la paranoïa, et puis dans toute sa générosité, dans toute sa grandeur, l'esprit d'équipe, le sens du sacrifice, de l'ascèse, du silence, le fait d'avoir des objectifs dans sa vie. Les jeunes ont besoin d'avoir des objectifs, le sportif a des objectifs. Quel est mon objectif? Selon quelle temporalité? Je pense que voilà, on a besoin de suivre des règles et des méthodes aussi de vie que souvent on a oublié en spiritualisant tout.
C'est vrai. Vous avez parlé des tempéraments. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors, c'est dans la pensée d'Aristote. Hein, mais il y a quelqu'un qui est devenu un ami qui s'appelle Alexandre Diani Navarre, qui a écrit des petits livres sur le sujet. Et en gros, il y a quatre dominantes. Je me méfie toujours parce qu'on peut soit essentialiser, soit figer,
mais
tout est dynamique, mais il y a quand même des tempéraments qui sont d'ordre biologique et qui sont inscrits dans notre être, dans notre ADN, notre biotope. Donc on a ce qu'on appelle des colériques, qui sont des personnes qui vont vouloir être plutôt dans le contrôle, dans la construction d'un projet, et qui vont aller tout le temps de l'avant au risque d'être un peu perso.
Des fonceurs,
voilà, mais qui peuvent écraser, mais qui ont une vision, qui avance avec une énergie vitale très forte. Il y a des sanguins qui vont être beaucoup plus dans la relation, dans la connexion entre les gens, monter des projets, etc. Vous aurez des flegmatiques qui vont être dans cette recherche de paix, d'apaisement, dans la réflexion. Et puis le mélancolique qui va être beaucoup dans l'idée, un peu dans la poésie, mais qui va voir des choses, évidemment, que le sanguin et le colérique ne verront pas.
Et oui, parce que lui, il prend du recul.
Et il va être créatif. Voilà. Donc, je pense qu'on a tous besoin de savoir quels sont nos tempéraments. Ensuite, ces tempéraments, c'est une donnée un peu naturelle, et qu'on va travailler avec les vertus que nous offre l'Église, qui va être la prudence, la tempérance, la vertu de force et de justice.
Et de justice, oui.
Et ces vertus qui vont s'orchestrer en elle et qui vont faire en sorte qu'on va devenir de meilleures personnes. Mais je pense, en tout cas, nous avons besoin de nous connaître pour nous aimer. Et avant de pouvoir servir les autres, il faut savoir comment nous fonctionnons.
Oui, s'aimer soi-même pour pouvoir après savoir
comment aimer les autres. Et ce travail-là, peut-être le faisons-nous pas suffisamment.
C'est vrai.
De nous connaître, de savoir où est-ce que nous sommes heureux, où est-ce que nous serons bons, où est-ce que nous serons insuffisants. Et souvent, dans l'école française, on a tendance à mobiliser des forces et des énergies pour non pas pour favoriser les points forts, mais pour corriger les insuffisances. Et j'ai toujours appris que le bien devait écraser le mal. Et un grand champion de tennis, par exemple, si son point fort est le coup droit, il va travailler son coup droit plutôt que travailler avec la même intensité son revers. Donc, quels sont nos points forts? Nos points forts, c'est notre identité fondamentale, et travaillons notre singularité, notre identité pour servir le monde. Et là, on retrouvera des éléments de notre mission. J'ai appris plus tard, moi je suis très clairement un sanguin, j'aime quand les gens sont en relation, je suis très heureux quand on monte des projets créatifs et concrets. Et bien, avec cet amour du sport, j'ai fait aussi de l'audit, donc il y a aussi un amour de la méthodologie et de l'organisation. Et bien, à un moment donné, providentiellement, il y a des choses qui sont alignées pour pouvoir mettre ses talents au service d'une cause qui me dépasse, qui est l'évangélisation, et de petits projets comme ça d'évangélisation. Mais ça peut être au sein de l'entreprise, ça peut être dans tous nos terrains de jeu.
Puisque vous parlez de l'évangélisation, j'ai dit en commençant cette émission que vous aviez cofondé le congrès Mission. Comment être missionnaire aujourd'hui? Quelles sont les qualités du missionnaire?
Je pense que c'est... chacun doit être amené à être témoin. Le missionnaire, c'est la personne qui, à un moment donné dans sa vie, saura, avec l'aide de l'Esprit-Saint, dépasser peut-être cette inhibition dans la relation interpersonnelle, qui peut être liée à une sorte de respect humain, d'avoir le courage, toujours avec l'humour et avec une sorte de détachement, d'annoncer explicitement que le Christ a transformé notre vie, que le Christ a un projet d'amour pour chacun, Et donc, c'est quand il a fait cette démarche-là, ça va l'engager.
Donc ça il peut faut toucher. Oser prendre des risques, hein, quand même.
Voilà. Alors, moi, il y a un concept de la balle perdue. C'est-à-dire que parfois, nos paroles de bénédiction vont toucher le cœur des autres. Mais ça va nous engager. Ça va nous engager à travers l'apostolat de l'amitié, maintenir une relation d'amitié avec cette personne-là. Ensuite, peut-être l'inviter à aller à la messe, continuer à avoir ses paroles de bénédiction, pouvoir demander de pardon. Mais en tout cas, on va sur un autre registre qui va être un registre peut-être de l'intimité spirituelle, alors que nous, on a une société très, très, très horizontale, un peu de méfiance. On va aller tout de suite sur un autre registre.
Mais ça suppose,
voilà, ça suppose. Je pense au monde de l'entreprise où on a peur des amitiés, on nous met tous dans une cage avec des liens hiérarchiques, des liens de subordination. Mais donc de perturber un peu ce modèle-là de façon gratuite. Parce qu'il y a un essentiel. Et cet essentiel, c'est la question de la vie après la mort. C'est la question de la vulnérabilité. C'est la question de la souffrance. Et on sait que les terrains d'annonce missionnaire sont souvent sur des failles. De la même façon que quand on tombe, il y a une cicatrice et la grâce de la miséricorde de Dieu va rentrer dans cette cicatrice. Et c'est là qu'on sera restauré. Je pense que dans les failles de notre vie, autour, ça peut être de la maladie, de la souffrance, de l'abandon, même de la vie, quand un bébé naît. C'est dans ces moments-là que nous pourrons explicitement avoir le courage d'émettre une parole de bénédiction, d'annonce explicite de la résurrection du Christ, de la beauté de la vie, dire aux gens qu'ils sont aimés. C'est un petit déclic.
Oui, voilà. C'est se servir en fait des occasions qui sont présentées.
Et c'est pas une question de manipulation, d'instrumentalisation. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous éclairera. Et souvent, au début de nos journées, quand on a des rendez-vous, de la même façon qu'un skieur avant de descendre un slalom, vous savez, il y a cet exercice de visualisation. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans les courses pendant 10 ans dans les courses hippiques. Et bien, dans les courses de haies, il faut trouver le jockey va donner la bonne impulsion
au
bon moment, dans un point d'appui, impact, etc. Et bien, confier au Seigneur la personne que nous rencontrerons pour trouver le bon positionnement, la bonne posture. Et peut-être le bon moment où on pourra avoir cette parole de bénédiction et d'annonce explicite du Christ.
Et ça peut être valable aussi avec ses propres enfants, et notamment des ados qui peuvent être un peu récalcitrants.
Oui.
Avoir cette prière le matin pour confier cet enfant, et peut-être le bon moment et la bonne parole pour toucher son cœur.
Exactement. L'enfant a besoin de moments de qualité, je crois. Les garçons ont besoin qu'on leur dise qu'on est fiers d'eux. Alors les filles aussi, mais les filles ont besoin, elles doivent être les princesses de leur papa. Mmh. Et si le papa n'a pas des paroles d'émerveillement devant la beauté de sa fille, les filles iront chercher du réconfort ailleurs, dans des bras plus prédateurs. Le garçon, s'il sent qu'il est un bon à rien aux yeux de son père, il y aura des failles et des blessures considérables. Et en organisant des camps pour les hommes, en intervenant, on voit à quel point les hommes... On en parlait tout à l'heure des masques que l'on porte. Il y a des hommes qui s'effondrent à 50 ans. Ils disaient, j'ai joué un personnage pendant 50 ans, je n'ai pas écouté mon cœur profond.
J'ai voulu plaire à mon père.
À mon père, à mon beau-père. Et j'ai joué un personnage. Et à un moment donné, ils sont en tension. Et quand le muscle est en tension, à un moment, il claque. Mmh. Et donc, on a des personnes qui n'ont pas fait ce travail donc, de connaissance de soi. Peut-être d'approfondissement dans la prière, d'accompagnement pour savoir où est-ce que le Seigneur nous attend et où est-ce qu'on sera le plus utile pour nourrir notre cœur profond. La joie, elle monte naturellement. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous sentez que vous êtes aligné dans votre vocation même professionnelle, la joie, elle sera là. Vous aurez cette force vitale. Les religieuses parlaient d'un confirmatur divin, la joie. Ça vient confirmer que vous êtes aligné. Donc, si vous n'êtes pas heureux, moi je me souviens dans mon burn-out, j'étais triste, j'étais sec, je ne voulais plus voir mes amis, ma prière était mécanique. Quand je voyais mes enfants, je m'interrogeais si j'allais un jour sourire en les regardant. Enfin, il y avait une sécheresse, quoi. Et je pense qu'on n'est pas appelé à être sec.
Voilà, donc finalement, le témoin de cet alignement, c'est vraiment la joie.
Il me semble.
Voilà. Ouais.
Quand
ça,
on se donne, ça donne de la joie. Fondamentalement, ça donne de la joie. Mais ça suppose, et vous l'avez évoqué, en amont une vie de prière pour rendre grâce au Seigneur pour les talents, nommer ses talents et puis avec beaucoup de lucidité et même du travail, voir où est-ce qu'on est attendu dans le monde. Et pour avancer, eh bien notre conjoint et notre plus sûr soutien. Et puis on a nos frères autour de nous, on a des amis, on a des miroirs, on a des osons demander de l'aide et osons exprimer avec humilité des besoins. Et puis prière, humour et puis joie à se donner.
Voilà, c'est le trio gagnant en tout cas qu'on retiendra de votre intervention. Merci Arnaud Boutéon, vous nous avez éclairé sur le cœur profond de l'homme et la mission à laquelle chacun est appelé. Puis je rappelle vos deux ouvrages, Comme un athlète de Dieu, manifeste sportif et chrétien chez Salvator et Une jeunesse catholique entre audace et espérance chez Arthège. C'était votre Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie. Merci beaucoup.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.